Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, le prêtre vient d'éteindre le cierge pascal, qui cela sera rallumé pour chaque baptême, pour bien montrer que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est représenté par ce cierge. Il monte au ciel pour s'asseoir à la place du Père, à droite du Père, et il monte au ciel également pour nous préparer une place. Et en montant au ciel, il nous indique la direction vers laquelle nous devons regarder. Nous devons toujours regarder vers le ciel, surtout quand les choses du monde nous attirent. Et il y a dans l'homme, dans chacun d'entre nous, une double attirance, si vous voulez. Il y a le démon, le monde et nous-mêmes qui cherchons à aller vers le sol, vers la boue du péché, la boue du monde. Et notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire, qui nous aide à monter vers le ciel. Donc la vertu d'espérance est la vertu fondamentale de ce temps de l'ascension. Alors pour nous, c'est la vertu d'espérance qui est peut-être peu connue, parce qu'on parle beaucoup de la foi, on parle beaucoup de la charité, et pas assez d'espérance, à mon avis. C'est vraisemblablement peut-être la vertu dont on a le plus besoin, surtout aujourd'hui. Pour ne pas regarder le monde moderne et ce qui se passe aujourd'hui avec l'abandon de la foi catholique dans le monde entier, malheureusement, pour ne pas justement regarder ces choses-là qu'avec un regard humain. Nous regardons toutes ces choses avec un regard purement humain, on se décourage totalement. Et qu'il faut regarder ces choses avec un regard divin. Et je pense qu'il faut méditer tout simplement à partir de l'acte d'espérance que vous connaissez bien. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que là, il est promis que vous êtes fidèles dans vos promesses. Il y a un ordre dans les choses que nous demandons, mon Dieu. Faites très attention parce que c'est justement en modifiant cet ordre qui est bien exprimé dans l'acte d'espérance, que la plupart des gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent au bon Dieu, je vais d'abord suivre les commandements. Et parce que je vais suivre les commandements, je vais acquérir des mérites. Et en pouvant acquérir ces mérites, je mériterai le ciel. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Est-il pour nous possible de suivre les commandements sans la grâce du bon Dieu? Absolument pas. Donc, espérons-le. L'acte d'espérance dit bien, j'espère qu'une ferme confiance donnerai par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde d'abord. Donc, d'abord, on demande la grâce. Le bon Dieu nous donne sa grâce, et par sa grâce, nous pouvons à ce moment-là, suivant les commandements, gagner des mérites et ainsi gagner le ciel. Il faut faire très attention à ne pas se tromper justement dans cet ordre. Et c'est précisément, encore une fois, parce que beaucoup de gens sont tombés dans une espèce qu'on appelle ça du pélagianisme. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Dans l'Église de Vatican II, et c'est une tentation peut-être aussi pour certains d'entre nous, de tomber dans une espèce de naturalisme qui consiste à vouloir gagner le ciel à force des poignets. Ou le pélagianisme qui consiste tout simplement à se dire que je vais atteindre le ciel, bien sûr avec la grâce du bon Dieu, mais c'est moi qui vais amener la grâce du bon Dieu dans mon cœur. Et je crois qu'il est très important, mes bien chers frères, de suivre la doctrine de saint Thomas dans ce domaine. Même si, strictement parlant, bien que saint Thomas soit le prince des théologiens, dans le domaine de la grâce, l'Église laisse libre. L'Église laisse libre et on peut suivre les explications de Molina, aussi les explications de saint Thomas. Cependant, les explications de saint Thomas sont beaucoup plus dans l'esprit d'Église. Et qu'est-ce qu'enseigne Saint Thomas justement dans ce domaine? Il enseigne justement que la grâce est antérieure au mérite. Alors que les modernes pensent que les mérites sont antérieurs à la grâce. Je fais pénitence, je suis les commandements de Dieu, donc le bon Dieu me donne sa grâce. Et ensuite avec cette grâce je peux aller au ciel. Et c'est extrêmement dangereux de penser comme cela. Oui, beaucoup plus sûr de suivre la doctrine de saint Thomas qui consiste à se dire: Dieu me donne la grâce, et par cette grâce qu'il me donne, je vais pouvoir remplir mon devoir d'État. Donc tout seul, sans la grâce du bon Dieu, je ne peux rien faire. Ça correspond tout à fait à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, sans moi, vous aurez plus de mal à aller au ciel. Il nous a dit deux choses. Il a dit, sans moi, d'une part, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger le petit doigt sans sa grâce. Et d'autre part, il nous dit aussi indirectement qu'avec ça, avec lui, on peut tout faire. Vous voyez comme il est important de pratiquer cette vertu d'humilité. La vertu fondamentale pour recevoir la vertu d'espérance, c'est la vertu d'humilité. Et c'est sans doute précisément parce que l'homme moderne est tombé dans l'orgueil, surtout aujourd'hui, que la vertu d'humilité évidemment disparaît, parce que l'humilité est incompatible avec l'orgueil. La vertu d'humilité disparaissant, évidemment, les gens ne veulent plus à ce moment demander des grâces du bon Dieu, essayent d'aller au ciel par leur propre force. Il n'est pas possible, mes bien chers frères, d'aller au ciel par nos propres forces. Rappelons-nous ça. Donc il faut vraiment agir un peu comme le pharisien de l'évangile, le publicain, pardon, de l'évangile, qui reste à la porte de l'église et qui dit au bon Dieu, Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis un pécheur. Le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce qu'il a lui demande. Mais n'essayons pas, mes bien chers frères, de gagner des mérites sans la grâce du bon Dieu, c'est absolument impossible. D'où la nécessité absolue pour chacun d'entre nous de rester en état de grâce. C'est évident que si j'ai le malheur d'être dans le péché mortel, eh bien à ce moment-là, la grâce du bon Dieu ne peut plus passer. Si j'ai le malheur même d'être dans le péché véniel, la grâce du bon Dieu passe, mais difficilement. Comme si vous voulez un tuyau qui amène encore un peu d'eau, mais qui est tellement tartré par le calcaire que l'eau ne peut plus passer très facilement, qu'il n'y a plus qu'un petit filet qui passe au lieu d'une quantité beaucoup plus importante d'eau. Donc demandons au bon Dieu cette grâce. Vous savez que les pères ont souvent pris deux images, on retrouve chez de nombreux pères de l'Église, deux images pour expliquer justement cette union qui doit exister entre ces trois vertus théologales. Les trois vertus théologales, on s'en centre sur Dieu, sont de loin les plus importantes de toutes les vertus. Certes, les fruits du Saint-Esprit sont encore au-dessus, mais les vertus théologales, justement, doivent travailler ensemble, parce qu'il faut la foi pour croire, l'espérance pour prier, et la vertu de charité pour obéir à notre Seigneur Jésus-Christ et suivre sa loi. Donc, si j'ai la vertu d'espérance qui est fondée sur l'humilité, à ce moment-là, je saurai prier. Si je n'ai pas l'humilité parce que je suis tombé dans l'orgueil, la vertu d'espérance va disparaître, et la vertu d'espérance disparaissant, je n'aurai plus la possibilité de prier. Je vais prier avec mon propre cœur et prier avec le cœur du bon Dieu. Je vais essayer de prier par mes propres forces, sans le bon Dieu, encore une fois, ne pouvant absolument rien faire. La première de ces images qu'utilisent les pères de l'Église, c'est l'image de la fleur. Dans une plante qui donne une fleur magnifique, un rosier magnifique, par exemple, vous avez trois choses. Vous avez les racines, vous avez la tige et vous avez la fleur. Les racines, évidemment, représentent la foi. La foi qui va prendre justement toutes ces forces pour élever la sève à partir des racines vers la fleur en passant par la tige, eh bien cette foi doit être évidemment centrée, fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roc. Donc les racines représentent la foi, ensuite la tige va représenter l'espérance et la fleur représente bien sûr la vertu de charité. Et qu'est-ce que fait le bon Dieu quand il veut avoir des belles fleurs? Il va tailler dans la masse, c'est-à-dire qu'il va tailler l'arbrisseau pour que justement les fleurs puissent être plus nombreuses et plus jolies. Et quand le bon Dieu taille dans la masse, ça fait mal. Quand le bon Dieu nous demande de nous purifier justement parce qu'il veut voir plus d'humilité en nous, alors il va tailler dans certaines branches, couper certaines branches. On comprend pas très bien en général pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ coupe certaines branches et pas d'autres. Et on a souvent d'autres idées sur la taille. On dit au bon Dieu, écoutez mon Dieu, moi je voudrais bien garder cette branche, à mon avis il faut la garder. Bon Dieu la coupe. Et cela, parfois on dit au bon Dieu, cette branche-là vous pouvez la couper mon Dieu. Mon Dieu la laisse. Parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Il est maître aussi dans la façon de tailler le rosier. Il va couper comme il veut pour que justement les fleurs soient magnifiques. Et une fois qu'il y a une belle fleur qui arrive, on est tout fier d'avoir notre belle fleur, on la montre à tous ceux qui passent autour et paf, qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu va couper la fleur. Il va couper la fleur, il va l'utiliser pour autre chose. Il va la mettre devant le Saint-Sacrement par exemple. Eh bien, c'est exactement notre histoire. Nous aussi, nous avons besoin des racines de la foi, la tige de l'espérance et la fleur de la charité. Mais si précisément nous n'avons pas encore une fois cette vertu d'humilité, cette vertu de docilité, eh bien à ce moment-là, la sève ne monte plus et la fleur va être une fleur extrêmement, extrêmement petite qui ne va pas pouvoir souffrir parce qu'il lui manque les nutriments dont elle a besoin pour pouvoir s'ouvrir. La deuxième image que prennent les pères de l'Église, C'est l'image de la lampe à huile, qui est très connue. À l'époque, il s'éclairait avec des bougies, il s'éclairait avec des lampes à huile. Et dans une lampe à huile, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un corps qui contient l'huile, qui est en général en argile. En argile durcie au feu, vous avez de l'huile d'olive dans la lampe, et puis une mèche qui sort, et la flamme va pouvoir être allumée, parce que la mèche plonge dans l'huile, et est donc alimentée par l'huile. Et on retrouve exactement la même image, mon bien cher frère. Le corps qui reçoit l'huile, c'est la foi. L'huile elle-même, c'est la vertu d'espérance. Et la flamme qui brûle, c'est la vertu de charité. Et la mèche qui est formée de quatre torrents, parce que c'est quatre torrents qui sont tressés ensemble pour former une mèche, la mèche représente les quatre vertus cardinales. De force, de prudence, de justice et de tempérance. Vous voyez comment ces sept vertus, justement, forment en quelque sorte le fondement sur lequel toute notre foi catholique doit pouvoir être hantée, doit pouvoir être bâtie en quelque sorte. Et remarquez que l'espérance est symbolisée par l'huile. L'huile, par elle-même, ne peut absolument rien faire. L'huile ne suffit pas par elle-même. Il faut que tout marche ensemble. Pourquoi? Si vous avez simplement jeté une allumette dans l'huile, l'allumette s'éteint. Donc il faut une mèche. Il faut une mèche qui aspire l'huile et qui permette justement à la fleur de la charité de brûler. C'est exactement la même chose pour nous. Donc l'huile qui paraît quelque chose de nauséabond, quelque chose de sale, qui laisse des traces partout, l'huile est précisément cette vertu d'espérance qui nous permet d'arriver à la vertu de charité, qui nous permet d'arriver précisément à la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons, bon Dieu, et qui met en nous cette huile de la grâce, cette huile de l'espérance. Demandons à Dieu à ce que notre lampe à huile soit toujours alimentée. Que nous ayons toujours la vertu d'espérance en nous. Parce que si la vertu, s'il n'y a plus d'huile, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus d'huile, la mèche va s'assécher, à ce moment-là, la flamme va s'éteindre. Donc s'il n'y a plus la vertu d'espérance en nous, eh bien, l'huile ne va plus pouvoir... Il n'y aura plus d'huile donc pour alimenter encore une fois la flamme, et donc la charité va disparaître. Donc encore une fois, demandons au bon Dieu cette grâce de savoir conserver en nous cette foi et cette huile de l'espérance pour pouvoir avoir la charité. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une lampe à huile pour être sûr qu'elle ne s'éteigne pas? Il faut la vérifier souvent. Il faut plusieurs fois au cours de la journée venir et vérifier que le récipient n'est pas vide ou en train d'être presque vide. Et si on constate qu'il est presque vide, vite on rajoute de l'huile pour que la flamme ne s'éteigne pas. N'oublions pas aussi que lorsque la flamme est éteinte par manque d'huile, quand la charité est éteinte parce qu'il n'y a, plus de vertu d'espérance, eh bien c'est parfois difficile de la rallumer. Il faut un briquet, il faut une source de feu, justement, pour que la flamme puisse être de nouveau jaillir à partir de cette vertu d'espérance. Alors, bien cher frère, nous devons veiller plus que jamais en quelque sorte de cette vertu de charité. Imaginons que c'est un petit peu l'image d'aujourd'hui, que nous soyons obligés pour éclairer notre chemin, d'éclairer notre chemin avec cette lampe à huile. C'est tout ce qu'on a comme éclairage en pleine nuit. Mais une lampe à huile donne une petite flamme. Évidemment, on voit un peu quelque chose, mais pas grand-chose quand même. On a vraiment besoin de la grâce du bon Dieu. Et il faut protéger cette flamme avec nous, avec notre main, pour que le vent n'éteigne pas. Si le vent éteint la flamme de la charité, c'est parfois impossible à cause du vent, justement, de réallumer cette flamme. Et la charité va disparaître. Donc il faut, avec beaucoup d'humilité, mes bien chers frères, demandons ces trois grâces. Foi, espérance, charité. Foi pour croire, et donc nécessité pour moi d'étudier mon catéchisme, d'étudier la doctrine de l'Église, d'étudier le dogme de la foi catholique pour ne pas me laisser contaminer par le pélagianisme et par toutes ces idées naturalistes modernes. Donc aidez-moi, mon Dieu, à avoir aussi, pas simplement la foi, mais avoir aussi la vertu d'espérance, donc de prier, savoir me mettre à genoux pour me rappeler au bon souvenir du bon Dieu, savoir réciter mon chapelet en famille, savoir faire ma méditation tous les jours pour ceux qui savent méditer, afin justement d'être certain d'avoir toujours une réserve suffisante d'huile pour alimenter la mèche et alimenter la flamme de la charité. Et demandons surtout la vertu de charité, quelle est la vertu d'obéissance, la vertu de docilité. Vous voyez très bien que ces trois choses sont intrinsèquement unies. Alors quand on a la foi, l'espérance et la charité, à ce moment-là, le bon Dieu va nous donner la grâce d'état dont nous avons besoin pour recevoir le Saint-Esprit et donc prêcher et devenir des instruments de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas qu'au moment où notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, les apôtres sont évidemment tout désemparés. Ils ont l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ les a abandonnés. Et il faut qu'un ange vienne les rassurer et les envoie justement se préparer, parce que notre Seigneur Jésus-Christ leur avait promis qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Là, il leur a envoyé le Paraclet. Et il va donc les préparer. Les apôtres sont encore, bien sûr, ils ont la foi, ils ont l'espérance, ils ont la charité, mais ils sont encore peureux. Ils ont encore une foi qui est faible, une espérance qui est faible, une charité qui est faible. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va les envoyer se préparer pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, ils vont justement méditer sur toutes ces choses-là pour pouvoir recevoir dans 10 jours, le jour de la fête de la Pentecôte, recevoir le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ils deviennent des hommes totalement transformés. Ils sortent et qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent. Pour cela que l'Église catholique a choisi précisément comme évangile l'évangile qui explique justement que notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples prêcher. Avec cette phrase que j'expliquerai dimanche prochain, celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc demandons, mes bien chers frères, avec beaucoup d'humilité, ces trois vertus. Ne croyons pas que nous sommes capables de garder ces vertus par nous-mêmes, par nos propres forces. Nous sommes absolument incapables. Il faut que le bon Dieu s'en mêle. Le bon Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est de s'en mêler, surtout si on passe par sa mère. N'oublions pas encore une fois que la très sainte Vierge Marie est l'instrument de toutes ces grâces. La très sainte Vierge Marie était là le jour de la Pentecôte. Et toutes les grâces, c'est le Saint-Esprit qui a été donné aux apôtres et passé d'abord par la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle est le cou de l'Église, parce qu'elle est la médiation de toutes les grâces du bon Dieu, elle est celle par laquelle le bon Dieu veut passer. Et donc il faut avoir gardé en nos cœurs, mes bien chers frères, un grand, grand amour du bon Dieu, un grand amour de la très sainte Vierge Marie pour protéger en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité, et pas simplement les protéger en nous, mais aussi vérifier, comme la personne en charge des lampes dans une maison, vérifier que cette charité brûle dans mon cœur et qu'il y a assez d'huile pour alimenter cette charité, mais aussi de vérifier est-ce que les lampes à huile des personnes dont j'ai la charge sont régulièrement alimentées par l'huile. Un père de famille, une mère de famille doivent donc vérifier constamment la lampe à huile de leurs enfants. Est-ce qu'il y a assez d'huile pour alimenter la charité? Et si on constate malheureusement qu'un des enfants a perdu la charité parce que la lumière de sa lampe à huile a été éteinte par le vent, à ce moment-là, tout de suite rajouter de l'huile pour être sûr qu'on puisse de nouveau enflammer la mèche et avoir cette charité qui brûle. Bien chers frères, nous allons demander toutes ces grâces aujourd'hui pendant la Sainte Messe, par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.